Tu aimerais en connaître un peu plus sur les énergies? Alors Georges te donne rendez-vous le lundi de 19h à 20h sur Radio Tonique pour son émission Tonique Énergétique.
Bonsoir cher tout le monde, ici Georges, on est lundi, il est 19h et tout va bien. Ce soir, émission particulière, je ne serai pas seul, j'accueille une personne chère à mes yeux avec qui on va parler d'une énergie particulière. Voilà le contexte, on est chez moi, sur mon canapé, table basse devant nous, moult victuailles, petit café, et mon ordinateur, le micro entre nous deux, contexte posé. Laissez-moi vous présenter cette personne, il s'agit de mon maître Reiki, qui me fait l'honneur et la joie d'être en notre présence, et avec qui on va parler d'une énergie particulière, en l'occurrence de l'énergie Reiki, entre autres. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir, merci Georges pour cette magnifique introduction.
Alors je précise Mathieu, est-ce que c'est un exercice que tu as déjà fait, de parler à la radio ?
Alors c'est la première fois, je l'avoue. Donc vraiment c'est tout nouveau pour moi, mais c'est un plaisir pour moi de m'exprimer, pour vous tous chers auditeurs, et c'est un honneur vraiment d'être accueilli dans ce cadre magnifique que Georges m'a préparé.
Alors, quand je dis victuailles, je vois qu'il y a des petites tomates. Hein. Tu peux en prendre si tu veux, il n'y a pas de problème. Il y a des cerises. Voilà, il y a un peu de carottes, des radis, bref, un peu de nourriture. Tu veux un cornichon ?
Non, merci.
On peut faire un peu de... Comment ça s'appelle ce truc ? C'est mesmer, un truc comme ça ? Non, tu sais, quand les gens font des bruits proches du micro, comme ça.
Ah, de l'ASMR.
L'ASMR, voilà. Bon. Tu hypnotises, en fait, les gens. Voilà. Bref, voilà. Donc, on essaye de faire quelque chose un peu en décontracté, d'accord ? Mm-hmm. Voilà, émission cool, d'accord ? Mais on va parler de façon relativement sérieuse, même si c'est détendu. Sérieuse, pourquoi ? Parce qu'on parle d'une chose qui nous importe tous les deux, à savoir que je ne suis pas maître Reiki, mais enfin, j'ai un certain niveau, d'accord ? On va parler de ces différents niveaux, si tu le veux bien.
Bien sûr.
Qu'est-ce que ça veut dire, maître Reiki ?
Alors, maître Reiki, c'est un bien grand terme quand on l'entend. Tout de suite, on s'imagine un grand maître, peut-être même un gourou, ça peut faire peur. On se dit, qu'est-ce que c'est un maître Reiki ? Mais c'est un titre tout à fait ordinaire qui... D'accord. Désigne simplement quelqu'un qui a passé sa maîtrise dans le domaine du Reiki, dans la pratique du Reiki. De même que, il me semble, les avocats, on les appelle maîtres, ça n'en fait en aucun cas d'eux des personnes plus importantes, plus sages ou plus... Simplement, elles ont acquis une certaine expertise dans leur domaine et on peut trouver des bons maîtres Reiki, des moins bons, mais qui sont tout aussi corrects, de même qu'un docteur, un médecin, on peut trouver des bons médecins, des médecins moins bons. Simplement, ils ont ce titre de docteur. D'ailleurs, le terme exact au Japon, puisque on va en parler, ouais. C'est une technique, le Reiki, qui provient du Japon. Le terme exact est sensei. C'est juste qu'en France, on peut le traduire par maître. Mais sensei au Japon peut désigner un maître, bien sûr, mais également un professeur. Ou les médecins, justement, les docteurs, là-bas, sont appelés sensei.
D'accord, donc c'est plus un titre qu'une particularité humaine, j'ai envie de dire.
Absolument. Ça ne fait pas de quelqu'un un maître illuminé, justement, mais simplement quelqu'un qui a atteint une maîtrise dans un domaine.
D'accord, donc c'est pas quelqu'un avec une barbe blanche, habillé en blanc, qui marche pieds nus dans l'herbe.
Alors je pense que tu pourras le confirmer, voilà. Je n'ai pas de barbe blanche, je suis habillé normalement.
Je vous ai décrit la table, que je vous décrive Mathieu. Il est en costume, point. Voilà, pantalon noir, cravate bleue, très bien mis sur lui, t'es propre. Et on imagine souvent un maître Reiki comme ayant un certain âge. 60, 70 ans et qui a atteint la sagesse. Tu as quel âge, Mathieu ?
26 ans.
26 ans ? Donc, à 26 ans, on peut être maître Reiki depuis combien de temps ?
Absolument. Alors, mon parcours est un peu particulier, ouais, parce qu'il est vrai que j'ai eu le Reiki à un âge très jeune. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc, oui, ça fait plus de 10 ans que je connais le Reiki. J'ai eu ma maîtrise, je l'ai eue à 21 ans. Donc... c'est un beau parcours, on va en parler. Tous ces degrés.
Alors, on va y aller point par point, hein, d'accord ?
Bien sûr.
Dans un premier temps, alors, on parle de maître Reiki. Alors, maître, on a bien compris que c'est un niveau, finalement, d'apprentissage. Hein, comme quelqu'un est bachelier, il a ou une licence, un master, etc. On est d'accord.
Absolument. Okay.
On va s'attarder sur ce que c'est que le Reiki à proprement parler.
Bien sûr.
Si tu veux bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce que ça veut dire Reiki ?
Ah, très bonne question.
Merci.
Si, bien sûr, commençons par là déjà. Parce que nos auditeurs ont peut-être déjà entendu parler du Reiki, ou peut-être que c'est la première fois, mais c'est une technique qui devient de plus en plus à la mode, de plus en plus connue. Surtout quand on est dans le domaine du bien-être, de la relaxation. Je connais des personnes qui font du yoga et du Reiki, de la sophrologie et du Reiki,
d'accord,
qui sont kinés et font du Reiki. Donc c'est quelque chose dans ce genre de milieu de la relaxation et le bien-être en général, également le développement personnel, qui est quelque chose qui prend de plus en plus d'essor, ouais, en sachant que c'est une technique très récente. Quand on parle d'acupuncture ou de yoga, ce sont des techniques millénaires dont nous savons que ça existait déjà il y a plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années en Inde, etc. Ouais. Le Reiki, tel qu'on le désigne aujourd'hui, est une technique qui vient du Japon depuis 1922. En fait, je vais rentrer maintenant un peu plus dans la définition de ce qu'est le Reiki. Le Reiki, à l'origine, désigne une certaine énergie. Y a une très belle histoire, anecdote que je trouve intéressante, qui est, on a demandé à un Japonais qu'est-ce que voulait dire Reiki pour lui. Et il était face à un magnifique paysage de nature avec les montagnes, les forêts. Et il a dit, en montrant le paysage, Reiki, c'est ça. C'est très beau, mais plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, c'est pour dire que le terme Reiki désigne justement tout ce qui est magique, la nature, l'énergie de l'univers, de la nature environnante, etc. Le terme Reiki est composé de deux kanji. Si vous connaissez un peu le japonais, ils ont des caractères qui désignent des mots et qui se prononcent d'une certaine façon. Donc on a le kanji Rei et le kanji Ki. Ki désigne l'énergie. Il me semble que tu en avais déjà parlé dans une de tes précédentes émissions, lorsque tu parlais de l'énergie. Et oui, je t'ai suivi un petit peu, Georges. Et donc, le ki désigne l'énergie, de même que le chi en Chine, le prana en Inde, mana dans les îles Hawaï, etc. Donc tout ça, ça désigne l'énergie. Maintenant, le rei désigne quelque chose qu'on pourrait traduire comme par spirituel, universel. C'est quelque chose qui désigne justement une énergie qui est de l'ordre du spirituel et pas du physique à proprement parler. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. D'ailleurs, chose intéressante, c'est que le chiffre 0 en japonais peut se prononcer Rei également, même si ce n'est pas la même façon d'écrire, mais c'est intéressant. Et donc, le zéro, c'est quoi ? C'est l'origine, c'est l'invisible. En fait, tout ça pour désigner qu'on pourrait traduire Reiki par énergie spirituelle qu'on ne voit pas. Alors, le Reiki, sur cette belle définition, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, quelle différence avec d'autres techniques énergétiques ? Déjà, voilà, pour la petite histoire, quand on parle de Reiki, en fait, c'est un terme qui existait avant 1922. Mais bien sûr, quand on parle de Reiki aujourd'hui, en fait, on désigne le Reiki Usui. Alors, qu'est-ce que le Reiki Usui ? C'est la technique de Reiki mise au point par Mikao Usui.
D'accord.
Alors, Mikao Usui est donc, on pourrait dire, l'inventeur de la technique pour utiliser cette énergie pour s'en servir lors de séances. Alors en fait, Mikao Usui, pour raconter un peu son histoire et comment le Reiki aujourd'hui, depuis 1922, donc qui est une technique très récente, est connue dans le monde entier. Vraiment, on peut trouver des praticiens Reiki un peu dans tous les pays du monde aujourd'hui. Donc comment ça se fait que aussi rapidement ça s'est démocratisé? Bien sûr, pour des raisons d'efficacité. Le prix qui est abordable en général pour passer un stage et la vitesse à laquelle on peut apprendre cela. Justement, c'est une technique qui s'adresse à tous, quel que soit nos antécédents, notre parcours dans l'énergétique. Certaines personnes sont naturellement douées dans ce domaine, mais d'autres personnes commencent vraiment de zéro. Et en fait, Personnellement, c'était mon cas. À l'âge de 15 ans, je n'étais pas spécialement destiné, en tout cas, rien ne semblait me destiner au monde de l'énergétique.
D'accord. Après, on en parlera après hein, de ton parcours. Je pense que c'est quand même tout à fait intéressant de rencontrer quelqu'un qui, finalement, a priori part de zéro et qui, finalement, plusieurs années après, devient maître Reiki et qui embrasse un peu d'autres aussi, d'autres
Absolument.
Techniques. Reiki, donc on en parlera rapidement, hein. ça peut être
Bien
intéressant.
Bien sûr, on pourra parler de la différence entre le magnétisme et le Reiki.
Par exemple aussi, ça c'est très intéressant, qu'il y a différentes énergies. Une énergie qu'on projette soi-même et une autre énergie qu'on capte, ça peut être intéressant. Une petite histoire, comment c'est arrivé ça, le Reiki? Comment ça se fait qu'il y a un gars un jour qui a su faire ça naturellement?
Alors,
en l'occurrence,
très bonne question, très bonne question. Alors, sans entrer dans trop les détails, parce que l'histoire du Reiki est un peu longue et voilà, j'invite tout le monde à faire peut-être ses propres recherches. Mm-hmm. Attention, parce qu'on va en parler, ça aussi, des idées reçues concernant le Reiki, parce que de nos jours, sur Internet, on trouve vraiment de tout. Mm-hmm. Et donc, il est important d'avoir du discernement, parce que c'est une chance aujourd'hui d'avoir accès à l'information plus facilement qu'autrefois. Mm-hmm. Mais également à des informations qui ne sont pas forcément vérifiées. Et donc, ça nécessite de faire tout de même un travail de recherche et d'avoir du discernement et de faire ses propres expériences, tout simplement. De des fois tester et de voir est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce sont des mythes.
D'accord. Alors, juste on revient. Comment c'est arrivé en 1922, un printemps? Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé exactement, j'ai perdu la date, mais disons un printemps de 1922, un gars se baladait dans la campagne japonaise.
Alors, pour cette petite histoire, donc ce fameux Mikao Sui, donc, qui a créé, on pourrait dire, la méthode de Reiki, donc il n'a pas créé l'énergie Reiki, évidemment, mais il a créé cette méthode que tout le monde peut apprendre et utiliser. Pour utiliser cette énergie. Et donc, comment s'est-il pris? Tout simplement, au début, lui, il ne partait pas de zéro, en vérité. Lui était déjà, Mikao Sui, un adepte des pratiques énergétiques. Et en fait, à l'âge de 7 ans, il était déjà connu et réputé dans son village pour être un guérisseur. C'est-à-dire qu'il utiliser une technique qu'on appelle le Kiko, qui est une sorte de Qigong thérapeutique japonais. Et il donnait des séances de l'âge de 7 à 10-11 ans, il a fait ça. Et il était très connu dans son village, les gens, ça leur faisait du bien, bien sûr. Et donc, c'était en plus un enfant si jeune, ça, c'est pas anodin. Cependant, vers l'âge de 10-11 ans, il a décidé d'arrêter parce qu'en fait, il se sentait vidé, épuisé lorsqu'il pratiquait. Toute sa vie, en fait, il aura senti qu'il devait y avoir quelque chose, un moyen d'aider les gens sans que ça ne le lèse à son tour, sans qu'il ne soit lésé, sans qu'il ne produise un sacrifice, qu'il perde de son énergie. Toute sa vie, il sera allé dans différentes voies, il aura étudié différentes techniques énergétiques, il aura été dans certains ordres du shintoïsme, du bouddhisme, il aura cherché sa voie, mais il n'aura jamais été prêtre finalement dans une voie particulière, il aura changé de techniques et toujours apprendre de nouvelles choses concernant l'énergétique, la spiritualité. Il faut savoir qu'il y a dans ce contexte au Japon, la spiritualité est très présente. Il y a beaucoup de branches différentes, principalement le shintoïsme et le bouddhisme, mais d'autres encore, des techniques moins connues, le shugendo, etc. Et donc il aura touché un peu tout, et même dans sa vie professionnelle, il aura été un peu perdu, puisque il aura changé de métier à plusieurs reprises. Certains estiment même qu'il aurait eu une trentaine de métiers différents dans sa vie, ce qui n'est pas anodin.
Donc effectivement, on peut dire que Mikao Sui, c'est quelqu'un qui était ancré dans la réalité, en réalité. Ce n'est pas quelqu'un qui était perché dans sa montagne, par exemple, et qui essayait de trouver l'illumination, quoi que ce soit. Il avait vraiment à cœur de trouver quelque chose qui, j'allais dire, qu'il soigne, mais en tout cas qu'il fasse du bien aux gens.
Absolument. Ce travail de recherche n'aura jamais été quelque chose de désinvolte où il aurait pu se dire « bon allez, je prends ça et ça me va et je reste sur ça ». Non, il aura toujours recherché quelque chose, une certaine excellence dans sa pratique. Il aura toujours recherché ce graal, si je puis dire, qui aura été la quête de toute une vie, puisque ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il aura justement pu mettre le doigt sur cette fameuse énergie.
En gros, il a passé 50 ans de sa vie, depuis qu'il est tout môme, à chercher
une
réponse, à savoir comment est-ce que je fais pour capter quelque chose, en tout cas pour libérer une énergie qui va aider les gens à se sentir mieux, mais que ça ne me... Tu parlais de sacrifice, que je ne sacrifie pas ma propre énergie personnelle.
Tout à fait.
D'accord. Allez, on fait une petite pause, Mathieu, et
petite
on revient tout de suite après. Allez,
à
petite
tout
pause
suite.
Médicale. À tout de suite.
This rock is a rolling home.
lundi, sur Radio Tonique, de 19h à 20h, on parle énergie avec Georges pour son émission Tonique énergétique.
Et de retour dans cette seconde partie de l'émission Tonique énergétique avec Mathieu.
Bonjour.
Bonjour. Alors, avant la pause musicale, on parlait de la quête de Mikao Usui, de trouver un moyen de soigner sans affecter, disons, en tout cas sa santé, mais disons sa quiétude. Est-ce que c'est correct?
C'est ça, son énergie générale, comment il se sent. Reprenons cette petite histoire, donc... concernant Mikao Usui qui cherchait donc toute sa vie quelque chose qui lui permet d'aider les gens dans sa pratique thérapeutique tout en conservant son énergie.
Alors juste un truc,
oui.
Sa pratique énergétique, on avait dit que c'était quoi? C'était
Le Kiko.
D'accord, et donc le Kiko, ça consiste en quoi si on peut en dresser?
Alors je ne suis pas un expert du Kiko.
D'accord, mais grossièrement, est-ce qu'on peut...
Grossièrement, c'est une technique qui... va faire appel à sa propre énergie pour la transmettre à l'autre de façon très résumée.
D'accord, oui, mais en gros, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une forme de magnétisme, du coup?
Absolument, c'est une forme de magnétisme.
Alors, quelle est la différence entre, du coup, le magnétisme et l'énergie que Mikao Usui utilise,
le Reiki,
ou même celle que moi-même j'emploie?
D'accord.
Est-ce qu'il y a une différence fondamentale?
Alors... oui et non. Il y a toujours des différences de forme, dans le fond aussi, quelque part. Mais sans entrer dans trop de détails techniques, on pourrait résumer le magnétisme. Et en fait, le magnétisme et le Reiki se ressemblent énormément sur certains aspects, dans la forme, puisque c'est une énergie que le donneur va généralement transmettre avec ses mains. Vous avez vu des magnétiseurs, ils travaillent avec leurs mains. Un praticien Reiki travaille avec ses mains.
D'accord.
Donc, quelle est la différence fondamentale entre le magnétiseur et le praticien Reiki? Le magnétiseur, dans certains cas, utilise sa propre énergie. Il va en fait se charger d'énergie, puis la transmettre. Mais lorsque il vient à se fatiguer, en fait, tout simplement, il va commencer à donner sa propre énergie. Et s'il est... En fait, ça, c'est dans certains cas. Maintenant, c'est là que j'aimerais corriger certaines choses, qu'on ne reste pas sur cette idée cliché du magnétiseur. C'est que certains magnétiseurs diront « Non, moi, j'utilise une énergie extérieure, ce n'est pas ma propre énergie, et je ne suis absolument pas fatigué à la suite des séances. » Disent-ils la vérité? Oui, ils sont honnêtes. D'ailleurs, ça ressemble un peu à ta pratique,
ouais,
Georges.
Absolument.
Alors... Quelle différence maintenant? C'est que même ces magnétiseurs qui n'utilisent pas leur propre énergie, lorsqu'ils sont dans un état où ils ne se sentent pas bien de façon générale, que leur, on parle de taux vibratoire, lorsqu'il est bas leur taux vibratoire tout simplement, qu'ils sont dans des émotions négatives, qu'ils sont malades, qu'ils sont fatigués, ce qui peut arriver à tout être humain normal, mais... Ça peut arriver, et lorsque ça leur arrive, ils sont dans l'incapacité de donner des séances de qualité. Bien sûr, dans certains cas, si une personne a un certain niveau, elle a le détachement nécessaire, comme c'est ton cas, Georges, je te connais un petit peu énergétiquement, je sais que tu es en mesure de transmuter les énergies pour te sentir bien. Alors le Reiki, du coup, c'est simplement une énergie qui est canalisée et qui est totalement indépendante à la personne en elle-même. Au canal. C'est-à-dire que si je veux donner une séance de Reiki alors que je suis justement dans un état où je ne me sens pas bien, l'énergie va conserver sa qualité. La nature de l'énergie ne va pas changer et je serai toujours en mesure de donner une séance. Une image pour que vous puissiez voir, c'est imaginez que vous ouvriez un robinet, l'eau coule, tout simplement. Que vous soyez malade ou, ou en bonne santé, vous tournez le robinet, l'eau coule. Donc le Reiki, c'est pareil. Il suffit d'être initié au Reiki, d'avoir appris donc, le Reiki. Et c'est vraiment du on-off. Et c'est l'une des raisons, encore une fois, sa simplicité d'exécution et qu'il n'y ait pas de contraintes, justement, fait que n'importe qui peut se faire une séance de Reiki, quelles que soient ses conditions. Et d'ailleurs, mieux vaut se faire d'autant plus de séances de Reiki lorsqu'on ne se sent pas bien.
Ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'encourage les gens à faire. C'est ce que j'ai expliqué un peu la séance précédente, enfin l'émission précédente, c'est que il est mieux en fait de se donner du soin à soi-même avant de le donner aux autres. En réalité, ça me semble être assez élémentaire. Juste pour revenir, donc on est allé plus avant sur le Reiki, mais j'aimerais bien revenir sur la façon dont c'est arrivé, dont cette énergie est arrivée, dont cette espèce de révélation est arrivée à Mikao Usui. Comment ça lui est arrivé?
Alors, il faut savoir qu'à travers ses différentes pratiques spirituelles, son maître, l'un de ses maîtres, lui a donné une technique de méditation qu'on appelle la méditation de la repentance du lotus. Il paraît que cette méditation viendrait de Bouddha en personne, donc ce n'est pas n'importe quelle méditation. Quoi qu'il en soit, il va la faire à 3 reprises dans sa vie, et c'est une méditation quand même assez difficile qui consiste à être isolé, à ne pas parler, à la limite réciter des mantras, jeûner. C'est une pratique assez ascétique qui dure également 21 jours. D'accord. Mais voilà, il la fera 3 reprises dans sa vie, et la troisième fois, il aura choisi un lieu qui est déjà connu pour ses propriétés énergétiques au Japon. C'est une montagne à laquelle on approprie des qualités énergétiques particulières. On en parlera peut-être, si tu n'en as pas déjà parlé dans des émissions précédentes, des zones géographiques qui peuvent avoir des lieux, qui peuvent avoir des énergies particulières. Et donc, en faisant cette méditation pour la 3e fois, au 21e jour, à la fin de cette méditation, il vécut un satori.
Satori, qu'est-ce que c'est ?
Alors, un satori, qu'est-ce que c'est ? Ça désigne une illumination. Alors, illumination, c'est un bien grand mot. Encore une fois, on ne parle pas de la grande illumination, on est Jésus, Bouddha, que sais-je. Mais ça désigne une petite illumination, peut-être, une illumination qui va toucher un aspect particulier de la compréhension d'une personne. C'est une cognition majeure. D'accord. Qui va changer la façon dont on perçoit les choses, dont on perçoit le monde. Et dans ce cas présent, son satori aura changé sa perception par rapport à l'énergie, aura fait qu'il aura été spontanément canal de l'énergie Reiki.
D'accord. Donc en gros, pour moi, le mot qui me vient, c'est révélation. Ça nous arrive dans la vie, d'une manière générale, on se balade et puis d'un coup, il se passe un truc où on se dit « Waouh, je viens de comprendre quelque chose de fondamental et ça change quelque chose. » Absolument. C'est de cet ordre-là ?
C'est de cet ordre-là. D'accord. Peut-être un degré un peu plus...
Degré bien. Voilà. En fait, j'essaye de ramener dans le concret pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas des trucs de perché, ce n'est pas des trucs d'halluciner, c'est un truc qui peut arriver à tout le monde en
Absolument.
Réalité. On peut se balader dans la rue, on est au feu, on attend dans sa voiture et puis d'un coup, on entend quelque chose, ça fait écho à soi dans sa vie et d'un coup, on se dit « Waouh, je viens de comprendre un truc ». Fondamental et son regard sur la vie, son regard sur les choses change et son rapport aux gens change.
Voilà, tout à fait.
Parenthèse close. Revenons à Maître Usui, à Sensei Usui. Donc son maître spirituel lui dit, va faire cette méditation dans une montagne, j'imagine, dans un lieu isolé, dans un lieu particulier chargé en énergie.
C'est ça ? Alors c'est Mikao Usui qui a choisi ce lieu en particulier. Encore que je n'ai pas les détails, c'est peut-être son maître qui lui a indiqué ce lieu. D'accord. Et donc, il a vécu son satori à ce moment-là. Et c'est justement cette fameuse révélation où il va sentir comme une nouvelle énergie le traverser. Et lui qui a fait beaucoup de pratiques énergétiques, il se dit, c'est étrange parce que l'énergie, c'est l'énergie. Comment se fait-il qu'il y aurait une nouvelle énergie ? Et donc... Alors là, ça dépend des variantes de l'histoire. Nous n'avons pas toujours... Il faut savoir que sa maison aura brûlé à plusieurs reprises et ce qui fait qu'on a perdu des archives concernant le Reiki. Et donc, on a des choses qu'on ne peut pas garantir à 100% que c'est ainsi qu'elles se sont passées. Maintenant, heureusement, on a pas mal d'archives et d'indices qui nous donnent quand même un retracé de l'histoire du Reiki, et que oui, Mikao Sui a bel et bien existé, et que voilà, c'est une personne réelle, et que le Reiki provient bien de lui.
Oui, parce que il faut voir que c'est un homme qui avait un certain âge au début du XXe siècle, en réalité. Donc il y a des gens qui, peut-être pas qui sont encore en vie aujourd'hui, qui l'ont connu, mais en tout cas des gens qui ont été initiés par lui, et ces personnes-là qui ont initié d'autres personnes. Donc il y a vraiment une chaîne de transmission qui est relativement récente. Donc on peut supposer, comme si on nous parlait dans une famille de l'arrière-grand-père ou du grand-père, on peut seulement, être assez au clair avec ça, que oui, il a vraiment existé, oui, on nous a dit que c'est ça qui s'était passé.
Tout à fait.
D'accord.
Et d'ailleurs, sans même parler du retour de chacun qui a connu l'ancêtre, qui a connu l'ancêtre, qui a connu Mikao Sui, aujourd'hui on trouve la tombe de Mikao Sui, elle existe, le cimetière existe bel et bien au Japon.
D'accord.
Voilà. Donc, reprenons sur l'histoire, voilà. Du coup, continuons. Et à ce moment où il a vécu son Satori, en fait, il sent cette nouvelle énergie le traverser et... D'après les versions, certains disent que c'est en descendant de la montagne pour entrer chez lui qu'il se serait blessé à l'orteil et qu'il aurait posé ses mains spontanément. Avez-vous remarqué d'ailleurs, quand on se cogne quelque part le genou, on pose directement nos mains à cet endroit.
Intéressant.
Et donc, il aurait posé spontanément ses mains, il aurait senti cette énergie justement qui circulait et qui lui faisait du bien, qui le soulageait. Dans d'autres versions, c'est en rentrant chez lui, tout simplement, il aurait voulu tester cette énergie, il aurait posé les mains sur lui et il aurait dit à l'énergie d'aller à tel endroit, sauf qu'il se rend compte que l'énergie agissait différemment de l'énergie habituelle à laquelle il était habitué dans ses autres pratiques, le Kiko, etc.
D'accord, alors ça veut dire que là tu es en train de dire un truc, c'est que habituellement il avait l'habitude, voilà, de diriger l'énergie vers un endroit, et là il se retrouve face à l'énergie est intelligente, se dirige là où il y aurait peut-être plus besoin.
Absolument, tu m'as devancé, mais c'est tout à fait ça. En fait, l'énergie n'obéissait pas à son ego, sa volonté, mais c'est comme si elle avait sa volonté propre.
D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça peut faire un peu peur.
Non, mais c'est surtout que je peux comprendre quelqu'un qui n'a jamais pratiqué l'énergie, qui entend ça pour la première fois, il se dit, c'est quoi ce truc d'halluciner, en fait ? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre un peu mieux, essayer d'expliquer un peu mieux ce que ça veut dire ? L'énergie se dirige en fonction de là où la personne a besoin ?
Tout à fait. Alors... quel exemple je pourrais donner pour que ce soit un peu plus clair ?
Ouais.
C'est vrai que c'est une notion un peu complexe.
Mm-hmm.
L'énergie a son intelligence, de même que notre propre corps physique a une certaine intelligence.
Mm-hmm.
Notre cœur bat selon sa propre volonté. Nos poumons respirent. Mm-hmm. Vous respirez de façon... Chacun respire de façon automatique. On n'a pas besoin d'y penser. Et donc notre corps a une certaine intelligence. Et donc, imaginez, par exemple, un endroit où on se blesse, par exemple, et forcément, ça peut être un peu infecté, où on tombe malade. Les globules blancs, notre système, nos anticorps, etc., vont aller naturellement là où ils ont besoin d'être déployés, là où il y a des bactéries, des agents pathogènes de toutes sortes.
Oui.
Donc, notre corps a un système de défense automatique. L'énergie Reiki a cette intelligence similaire. Non pas qu'elle est intelligente et qu'elle va faire des calculs complexes, de même que nos globules blancs ne vont pas faire des calculs. Oui. Mais je ne suis pas médecin, excusez-moi si le terme n'est pas globule blanc ou autre. On aura compris. Mais du coup... simplement, l'énergie va aller là où il y a des blocages énergétiques et va aller libérer ces blocages et transmuter l'énergie dite négative, entre guillemets.
D'aucuns disent que il aurait eu cette révélation en descendant de sa montagne parce qu'il a passé 21 jours sans becter. Et même, pourquoi pas, sans boire. Est-ce que c'est une espèce d'hallucination qui lui aurait apporté ça, ou quelque chose comme ça, ou pas?
Quelle question. Non, ce n'est pas une hallucination, puisque plus tard, il aura mis sa technique en place suite à un séisme terrible qui a eu lieu en septembre 1923 ou 1926, excusez-moi, ces temps-ci, les dates.
Bref, il y a eu un...
Mais voilà, c'est sur Wikipédia, hein. c'est connu, c'est archivé. Ce séisme important a fait quand même beaucoup de blessés et de morts. Et Mikao Sui, justement... Alors, entre-temps, bien sûr, il aura pratiqué le Reiki, il a vu que ça lui faisait beaucoup de bien, il aura testé sur sa famille, son village, et il sera devenu très connu, d'ailleurs. Et même dans tout le Japon, rapidement, il se sera fait un nom, à une époque où les gens ne voyageaient pas aussi rapidement qu'aujourd'hui. Bon, les lignes de chemin de fer existaient, le Japon commençait à s'industrialiser un petit peu, mais c'était beaucoup plus difficile de voyager, beaucoup plus long, et... plus cher pour tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Mais quand même, sa réputation se sera étendue dans tout le Japon et des gens venaient de très loin pour venir le voir, justement. Et suite à ce fameux séisme, il se sera dit, mais je peux aider certaines personnes, mais il y a beaucoup trop de personnes qui sont blessées et qui ont besoin de moi. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, et en plus, lorsque je décéderai, le Reiki va disparaître. Donc il s'est dit, il faut que je trouve un moyen de transmettre ça aux autres, d'apprendre ça aux autres.
D'accord. Donc juste pour revenir sur ce que tu disais, une chose qui me semble importante, c'est que naturellement, cet homme, Usui, s'est dit, je vais d'abord le faire sur moi-même. Je vais d'abord cultiver cette énergie-là, que ça me bénéficie à moi-même en réalité. C'est ça dont il s'agit. En fait, que l'énergie bénéficie d'abord à moi avant de bénéficier aux autres. Ça semble un peu égoïste, mais c'est tout à fait, ça me semble tout à fait logique. On ne peut pas donner à quelque chose, on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas d'abord soi-même. Ça te parle, Mathieu ?
Absolument, absolument.
D'accord.
Et d'ailleurs, enfin, c'est même pour des raisons éthiques que je ne vais pas proposer une nouvelle énergie, une nouvelle technique à quelqu'un sans la tester d'abord sur moi-même, de toute évidence. Je ne vais pas me servir d'un cobaye et prendre des risques. D'abord, il faudra que je teste sur moi-même pour des raisons d'éthique. En tout cas, je trouve ça plus juste de proposer aux autres ce qui fonctionne pour nous. Voilà.
D'accord. Donc, c'est vraiment une technique, disons, qu'il a éprouvée empiriquement sur lui-même, sur les autres. Il a eu des retours, on lui a dit non, là, ça ne marche pas comme ça. Et progressivement, il a développé cette méthode qui est aujourd'hui le Reiki Usui et qui a fait ses preuves, justement. On revient sur ce tremblement de terre. Est-ce qu'on sait quelles ont été les répercussions de cette technique sur les gens qu'il a soignés?
Alors, sur les gens qu'il a soignés, à l'époque, il était seul lors du tremblement de terre, donc... on n'a pas assez de témoignages de personnes qui peuvent témoigner justement de « on a été sauvés », etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça a été le moment où il a pris une décision et qu'il s'est dit « je dois trouver un moyen de transmettre ça à d'autres personnes ». Parce que si on était 2, 3, 4, 10 praticiens Reiki, on pouvait faire 10 personnes au lieu que je sois seul et devoir... faire une personne, puis une autre personne, donner du Reiki à chaque personne. Il y avait beaucoup trop de personnes qui étaient en demande. Et donc, le fait que, on en revient à ce que, la question que tu m'as posée, est-ce que c'est un truc de perché, voilà, il suffit d'arrêter de manger ou de méditer 21 jours à l'écart du monde et ça y est, c'est une hallucination peut-être, c'est... Non, le fait qu'il puisse... enseigner à d'autres personnes à pratiquer cette technique et que ça fasse ses preuves et que cette technique se répande dans tout le Japon, puis voilà, ensuite en Europe, à partir des États-Unis, etc., enfin dans le monde occidental, puis en Europe, c'est la preuve que ça marche.
D'accord. Donc en gros, si je comprends bien, ce que Usui a transmis, c'était ce qu'il faisait lui-même et il s'est rendu compte qu'en le transmettant par la façon dont il le faisait lui-même, ben, ça marchait exactement comme ce qu'il faisait. Donc il n'y avait pas une espèce de pouvoir particulier de la personne. On a des facultés particulières, alors je te le transmets à toi. Est-ce que c'est ça dont il s'agit ?
Non, ce n'est pas du tout quelque chose de sélectif. C'est quelque chose qui s'adresse à tous. En fait, on pourrait presque dire que le Reiki est scientifique. Mm-hmm. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une expérience scientifique ? Une expérience scientifique, c'est une expérience qui peut être répétée, quel que soit le moment, les conditions, etc. Bon, bien sûr, il y a un minimum de conditions pour l'expérience, mais lorsque on change certains paramètres comme l'heure, la journée, la personne qui va justement apprendre à pratiquer le Reiki, il n'y a pas de discrimination quelconque basée sur le sexe de la personne, son âge, ses origines, de même que ses croyances. Ça ne dépend pas des croyances d'une personne. Je connais des gens qui sont juifs, chrétiens, musulmans, athées tout simplement, bouddhistes, que sais-je, qui font du Reiki justement.
D'accord. Allez, petite pause et on revient tout de suite après.
Tous les lundis, de 19h à 20h, sur Radio Tonique, on retrouve Georges pour son émission Tonique Énergétique.
Troisième partie de Tonique Énergétique avec Mathieu ce soir. Merci encore une fois, Mathieu, d'être avec nous. Alors, on parlait de ce tremblement de terre, notamment, qui a permis au Reiki de se développer sur une plus grande échelle au niveau du Japon. Et une question qui m'est venue pendant la pause. Pourquoi ça marche, le Reiki?
Ah, pourquoi ça marche? Très bonne question. Pourquoi ça marche inconditionnellement sur chaque personne, c'est ça? Parce que si je devais dire pourquoi ça marche, parce que l'énergie marche tout simplement.
Ou du moins qu'est-ce qui fait que ça
qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors, il faut savoir que tout le monde a un droit de naissance de pouvoir utiliser l'énergie Reiki. Lorsque l'on naît à la naissance, jusqu'à l'âge d'environ 7 ans, notre canal Reiki est ouvert. N'est-ce pas intéressant?
Je me permets de t'interrompre avant que tu continues. Qu'est-ce que ça veut dire le canal Reiki, canal Reiki ouvert?
Alors, le canal Reiki, alors si on devait... Bon, peut-être vous avez déjà vu des planches de méridiens. On voit les différents méridiens avec l'énergie qui circule dans des canaux, un peu au même titre qu'il y a des canaux pour le sang, les veines, les artères, etc. Le corps au niveau énergétique a des méridiens. Le Reiki est canalisé pas forcément directement par un méridien particulier, mais il peut passer à travers ces différents méridiens, l'énergie passe à travers ces différents méridiens, et donc nous sommes en fait des éponges au point de vue énergétique où nous pouvons nous remplir d'énergie, et de même nous perdons de l'énergie, on n'a pas de moyen de stocker quelque part, avoir une poche d'énergie à disposition. C'est ce qui fait que, à un moment, il faut manger, il faut dormir, etc.
Juste,
sauf exception.
Sauf exception, il y a des gens qui ne mangent pas pendant 40 ans. Ça a été, entre guillemets, documenté.
Il paraît, oui.
Une chose, par rapport à cette histoire de méridien, qu'on comprenne bien, parce que c'est assez flou, hein, on ne sait pas, on dit que c'est un mythe, etc. Il se trouve que, scientifiquement, maintenant, ça a été prouvé. Il y a eu des photos de prise sur les parcours de ces méridiens et qui correspondaient aux planches anatomiques que les Chinois ont mis au jour il y a quoi, il y a 3000 ans, c'est ça?
Ah oui, peut-être en plus.
Et donc, ces méridiens, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est? Parce que c'est assez flou, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est physique? Est-ce qu'on peut le voir? Ou est-ce que c'est énergétique, entre guillemets, et dans ce cas-là, on ne peut pas le voir par nos yeux? Est-ce que c'est un parcours particulier? Est-ce que c'est un comment dire, on parle de peut-être de chemin, de voie, de comme un vaisseau sanguin peut-être, mais d'une autre nature?
Tout à fait. Mais contrairement aux vaisseaux sanguins, ceux-là ne sont pas visibles sur le plan physique avec nos yeux physiques, de même que je te regarde. On ne peut pas les voir. Cependant, on peut voir leur action, leurs effets. Les expériences scientifiques, justement, le démontrant, c'est en colorant d'une teinte particulière certaines particules qu'on a injectées dans le corps d'une personne. On a vu cette particule suivre le trajet des méridiens et donc ne pas emprunter une voie totalement aléatoire ou qui correspondait, par exemple, aux veines. Non, c'était vraiment le trajet de l'énergie dans les méridiens. D'ailleurs, c'est ce qui fait que l'acupuncture ou d'autres techniques diverses d'acupression font qu'on peut, en stimulant certains méridiens, libérer des blocages et avoir des effets bénéfiques sur la santé, sur le stress. Et ce sont des choses qui sont visibles et qui ne sont pas de l'ordre du placebo, puisqu'il y a des résultats. Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas autant on n'en parlerait pas autant et ça n'existerait pas depuis tant d'années si c'était quelque chose d'inefficace.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, si c'était un effet placebo, en réalité, ça ne marcherait pas sur une aussi grande échelle, en réalité, que les personnes soient conscientes ou pas, ça marche sur les enfants, ça marche sur les animaux même, on est bien d'accord?
Alors, pour le Reiki, oui. Pour l'acupuncture, je ne sais pas si ça existe, l'acupuncture sur les animaux. mais en effet, le Reiki fonctionne très bien sur les animaux, sur les enfants, sur les personnes âgées qui sont même dans des états où ils n'ont plus toute leur tête. D'accord. Mais on peut avoir des effets bénéfiques et même des personnes dans le coma. Donner du Reiki à une personne qui est sous perfusion, qui est inconsciente, qui est en train de dormir, on peut voir, dans certains cas, le rythme cardiaque se stabiliser.
D'accord,
waouh. Oui, il y a des témoignages. Et d'ailleurs, c'est pratiqué beaucoup dans certains hôpitaux aux États-Unis en tant que bénévole, en Espagne. En France, c'est un petit peu plus timide. En Suisse, je ne viens pas de Suisse pour nos auditeurs, donc je n'en sais rien. Mais je sais qu'en Europe, ça commence à être un peu plus accepté dans les hôpitaux. Mm-hmm. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des praticiens Reiki qui sont entièrement bénévoles et qui prodiguent leurs services aux personnes en besoin hospitalisées.
D'accord, donc ça commence à être de plus en plus accepté, peut-être parce qu'il y a une raison, simplement, est-ce que ça peut faire du mal ?
Alors non, justement. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le Reiki. Est-ce qu'il y a un risque ? Vous savez, si on prend toutes les idées reçues qu'on peut trouver sur le Reiki, vous notez, vous allez sur Internet, vous regardez chaque point qui fait que on ne peut pas faire du Reiki, par exemple. On ne peut pas faire du Reiki à une femme enceinte. On ne peut pas faire du Reiki à une personne qui a une fracture. On ne peut pas faire du Reiki à quelqu'un qui a un pacemaker, etc., etc. Vous dressez une liste. À la fin, vous tirez la conclusion que le Reiki est uniquement bon pour les personnes en parfaite santé.
Alors que ce n'est pas forcément le but recherché, en fait. C'est vraiment une méthode de soins en direction de tout le monde.
Absolument. Et il n'y a aucun risque concernant l'énergie Reiki quand il s'agit bel et bien de Reiki. Peut-être on en parlera plus en détail plus tard, mais aujourd'hui, le fait que la technique... Mickey Osui, lorsqu'il a créé le Reiki, il n'a pas fait du Reiki une marque déposée. Mmh. Il n'a pas mis des droits particuliers dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait tomber sur quelqu'un qui s'improvise maître Reiki sans connaître le sujet et qui... Des fois, la plupart du temps, les personnes sont bien intentionnées parce qu'ils se disent ben, « voilà, j'ai suivi un cours sur Internet pour faire du Reiki, mais il y a une grosse différence entre faire un vrai stage de Reiki où on va justement passer par ce processus qui va ouvrir le canal Reiki, le processus d'initiation, alors que apprendre par Internet sans passer par ce processus énergétique particulier pour canaliser l'énergie Reiki » fait qu'on va peut-être faire du magnétisme et croire que c'est du Reiki, alors que c'est du magnétisme, ce que tout le monde peut faire également.
D'accord. Alors, par rapport à cette ouverture de canal, j'ai eu vent de certaines expériences qui se seraient mal passées, notamment j'ai souvenir d'une dame qui disait « Oh mon Dieu, après j'étais tellement mal, etc. » Alors déjà, est-ce qu'il y a un danger particulier et comment est-ce qu'on pourrait expliquer le fait que certaines personnes puissent se sentir mal ?
Très bonne question. Alors ça dépend, encore une fois, je ne peux pas dire particulièrement parce qu'on manque de détails par rapport aux histoires de tout un chacun. Parce que imaginez par exemple que je fasse du Reiki et que, comme par hasard, je tombe malade ce jour-là, alors que ben voilà, ça devait tomber. Est-ce que le Reiki nous rend malade ? Ce serait un petit peu exagéré de dire ça. Donc il se peut que ce soit simplement le hasard qui fait que voilà, pour certaines circonstances, certaines raisons qui n'ont pas de corrélation avec le Reiki font qu'elles se sentent mal. Ça peut être parce qu'elles n'ont pas suivi un vrai cours de Reiki authentique et qu'elles ont choisi une voie énergétique qui est différente et que peut-être le maître lui-même était bien intentionné et croyait faire du Reiki. Mais tout simplement, il n'a pas poussé ses recherches plus loin, il a appris du Reiki, enfin ce qu'il croit être du Reiki d'un autre maître, qui lui-même a appris d'un autre maître, et quand on remonte, on se rend compte qu'en fait c'est quelqu'un qui s'est improvisé maître Reiki, et qui n'est pas un maître Reiki authentique. Un moyen de vérifier ça, c'est de demander justement la lignée à un maître Reiki. La lignée, c'est comme un arbre généalogique en fait que nous avons en tant que maître Reiki qui montre quel est notre maître, le maître de notre maître, le maître de notre maître, de notre maître, ainsi de suite, jusqu'à Mikao Usui. Et donc c'est une façon de retracer que oui, ça provient bien du Reiki originel de Mikao Usui et que tous les maîtres entre chaque sont des personnes réelles, etc. On a une preuve documentée que c'est bien du Reiki authentique. Maintenant, il se peut également que lorsque l'on pratique des techniques énergétiques pour la première fois, il y a des choses qui se libèrent. Il y a des toxines physiques, il y a des blocages énergétiques, des émotions qui peuvent être bloquées dans notre corps et qui se libèrent. Et donc, il est possible que pendant un certain temps, au début, on se sente moins bien parce que c'est un processus de nettoyage, d'épuration qui a lieu. Vous savez, comme quand vous allez au sauna, ben forcément vous allez transpirer, vous allez évacuer des toxines par les pores de votre peau. Et c'est vraiment fascinant. J'ai entendu des témoignages de personnes qui avaient pris, par exemple, des substances il y a très longtemps dans le passé, comme du LSD, des drogues, d'accord, et qui disaient qu'après avoir été au sauna, ils ressentaient le goût du LSD dans leur bouche. Oh. Pour dire à quel point les toxines peuvent des fois avoir été absorbées il y a très longtemps, mais restent parfois coincées dans notre corps. Et de même, pour des toxines donc physiques, mais également énergétiquement, des émotions, on peut se sentir triste sans raison, en colère, mais ces effets sont temporaires, je vous rassure, et c'est quelque chose par lequel on peut passer. Mais l'énergie est intelligente, encore une fois, elle ne nous mettra jamais en danger, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais nous nettoyer plus que nécessaire, nous retirer des choses trop lourdes et qui pourraient mettre notre vie en danger. Cette énergie est à la fois puissante mais très douce.
D'accord, donc en gros, on ne peut supporter que les choses qu'on est censé pouvoir supporter en réalité.
Absolument.
D'accord. J'aurais voulu t'entendre un peu sur peut-être ton parcours aussi, parce qu'on a parlé un peu de la vie d'Ousuit assez rapidement, un peu à la machette, hein, on s'est pas arrêté là-dessus. Ce qui nous intéressait, c'est surtout l'énergie Reiki et la pratique Reiki. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, si tu le veux? Comment tu en es venu au Reiki? Alors tu disais depuis que tu as 15 ans, donc ça fait quoi, une quinzaine d'années que tu fais ça, c'est ça? Un peu plus?
Presque, un peu moins.
Un peu moins. Et comment tu en es venu à ça et qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ça? Est-ce que tu as vu des changements dans ta vie, des manifestations intéressantes?
Alors, merci de me poser cette question. Donc je vais parler un peu de moi maintenant. En fait, lorsque j'ai commencé à l'âge de 15 ans, j'étais donc un jeune adolescent qui allait au lycée comme à peu près tous les adolescents de mon âge, et j'étais plutôt ordinaire. Je suivais un parcours scolaire normal. Et c'est en fait une amie de ma mère, je la salue d'ailleurs, si elle écoute, qui a proposé donc à ma mère, qui avait fait en fait un stage de Reiki, et qui a dit « c'est génial », elle a proposé à ma mère, et ma mère... elle s'est dit pourquoi pas, mais j'ai pas envie d'aller seule, tiens, je vais proposer à mon fils, donc moi. Et j'ai dit, je me suis un peu renseigné sur le sujet, et je me suis dit, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, j'ai pas perdu grand chose, c'est voilà, juste une expérience. Et donc, le stage se fait, et ma vie a changé sur beaucoup d'aspects et très rapidement. Et j'ai été impressionné, en fait. Moi qui n'avais pas d'attente extrême, qui est venu vraiment comme un bon sceptique, vous savez, je ne rejetais pas tout en bloc, mais je me disais pas « c'est sûr, ça va marcher », ni « c'est sûr, ça va pas marcher ». Je venais vraiment en bon sceptique. Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. On verra bien quels effets je peux faire, qu'est-ce que je peux en tirer. Et les effets ont été drastiques. Mon sommeil s'est grandement amélioré. Mon stress a beaucoup diminué. Et toute ma vie a changé, en fait, puisque maintenant je suis maître Reiki. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr. Au début, j'ai quand même mis 3 ans entre mon premier et mon deuxième degré. Donc j'ai attendu un bon moment avant de me dire, tiens, je vais passer au deuxième degré. Mais il ne m'a pas fallu 3 ans avant de voir les effets. D'accord. Rapidement, je me suis rendu compte. Au début, il y avait toujours un peu le mental qui me disait « Ouais, mais non, c'est peut-être moi qui invente et tout. » Mais en voyant comment mon état intérieur changeait, je me souviens en plus, c'était en hiver, d'ordinaire, il fait froid, etc. Mais là, je me sentais habité par cette énergie, par cette chaleur douce et réconfortante. Et c'était vraiment un changement assez impressionnant de sentir ce bien-être général alors que la veille, 3 jours avant, j'étais encore, avant de faire ce stage, je n'étais pas la même personne en fait. C'est difficile à décrire, après chaque expérience de chacun sera différente, mais de façon générale, on peut noter dans les effets du Reiki une amélioration de la santé en général. Je tombe beaucoup moins malade également. Moins de stress, une amélioration du sommeil, des relations également. On pourra peut-être en parler plus en détail, mais notre mental, notre façon de nous comporter, nos émotions sont différentes. Et le fait que l'on se sente mieux fait que ça déteint sur les autres on est plus agréable à vivre et les autres forcément nous le rendent.
Mathieu, je te remercie infiniment pour ce temps que tu m'as accordé. J'aurais aimé t'entendre plus sur, aller un peu plus avant sur la pratique en elle-même, peut-être sur les stages, parler de deux, trois, disons, pas forcément dire les secrets, ou il n'y a pas de secrets, mais disons qu'il faut aller dans les initiations, dans les stages pour apprendre. C'est normal, comme on va à l'université pour apprendre une pratique médicale, par exemple, ou architecturale, ou ce qu'on veut. Donc, mais j'aurais bien voulu t'entendre là-dessus. Le temps nous manque, là, tout de suite. Donc, peut-être que, si ça t'intéresse, une autre fois, une deuxième session, ça pourrait être pas mal. On verra si on organise ça. Mais en tout cas, voilà, ça m'aurait intéressé d'aller plus avant sur comment ça se passe une séance, par exemple. Et est-ce qu'il y a des contradictions ? Non, on en a parlé un peu. Mais t'entendre parler sur qu'est-ce qui a changé davantage dans ton existence, un truc qui est à noter, c'est qu'en réalité, c'est physique. Physiquement, quand on pratique, on sent clairement quelque chose. Mais j'aurais bien voulu... peut-être qu'on en parlera, on en parlera plus avant. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée. Tu veux dire une dernière chose, Mathieu ?
Sentez-vous bien.
Et je voulais conclure là-dessus. Pensez toujours, toujours, toujours à vous sentir bien.